Terre à Terre, le magazine de l'environnement. On s'intéresse encore ce matin à l'aide alimentaire, mais cette fois dans les grandes largeurs. Aurine Joran, vous êtes chargée de plaidoyer au CCFD et vous êtes associée à Oxfam et à Action contre la faim pour faire un travail de fond, vraiment, de longue haleine, que vous avez publié sous forme de dossier. Un dossier intitulé « La faim, un business comme un autre ». C'est vraiment un titre un peu choc. Alors, vous allez nous expliquer pourquoi, puisque, en fait, ça commence par une très bonne nouvelle. Le G8 a décidé de s'occuper de la faim dans le monde et donc de s'intéresser à l'aide alimentaire et nutritionnelle en direction d'un certain nombre de pays et en particulier en direction de l'Afrique. En fait, il y a eu deux temps. Et ça, c'est déjà la première information intéressante. Il y en a énormément dans ce dossier. Il y a eu un premier temps. C'est une rencontre à L'Aquila, cet endroit où il y a eu ce terrible tremblement de terre, donc un lieu quand même assez chargé, où les pays du G8 se sont réunis et ont décidé qu'il fallait absolument prendre le problème à bras-le-corps, et de fait, il était temps.
Ah oui, ben en fait, on sait qu'il y a un vrai tournant dans les questions agricoles et alimentaires des pays du Sud en 2008, en effet, un an avant ce G8 de L'Aquila qui s'est réuni parce qu'on faisait suite aux émeutes de la faim. On se souvient, hein, ces manifestations contre la vie chère dans plusieurs capitales des pays du Sud, d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie, c'était sur les trois continents. Et suite à ces manifestations, les États membres du G8 ont dit, en effet, c'est un secteur qu'on a depuis très longtemps délaissé. L'agriculture était le parent pauvre des investissements et du soutien des pays du Sud. Et donc, la décision a été prise de se réorienter vers les investissements dans l'agriculture. Et donc, à L'Aquila, on a une première initiative qui a été lancée, dotée de 22 milliards de dollars, qui était centrée sur investir dans l'agriculture, développer l'agriculture en Afrique pour qu'elle puisse se nourrir elle-même. Cette initiative a eu des difficultés à vivre. Les sommes n'ont pas été entièrement réunies. Et ça, c'était sous couvert de crises financières et économiques annoncées par les États du Nord, et donc qui justifiaient comme cela de ne pas pouvoir... J'ai envie de dire respecter leurs engagements.
Quand vous dites pas complètement, on était même assez loin du compte puisqu'il a manqué 25% des financements.
Oui, alors ça dépendait de chacun des États, mais en effet, certains États ont atteint les financements comme les États-Unis, mais des États comme la France, des États comme l'Allemagne aussi ont mis plus de temps, voire n'ont toujours pas atteint l'ensemble de ces investissements auxquels ils s'étaient engagés en 2009. Et donc face à ces difficultés, ils ont décidé, à la fin de cette première initiative, d'en lancer une seconde, qui s'appelle la Nouvelle Alliance pour la Sécurité Alimentaire et la Nutrition. Et afin de combler leurs difficultés d'investissement public, la clé, j'ai envie de dire, de réussite annoncée de cette initiative, c'est de demander aux acteurs privés, aux grandes entreprises, aux grandes multinationales de l'agroalimentaire, de venir participer à l'initiative et de venir investir avec les États du Nord pour développer le secteur agricole dans 10 pays clés d'Afrique, parce que là, on n'est plus sur une approche continentale, mais sur 10 pays très spécifiques.
Vous nous dites, Maureen Joran, que les États ont fait le constat de leur échec, de leur impuissance, et ont fait appel au privé avec ce constat-là.
Alors je pense que c'est la Nouvelle Alliance, elle est plutôt révélatrice d'une tendance qui s'est installée depuis plusieurs années maintenant. On entend beaucoup parler des partenariats publics-privés, des appels au financement et aux investissements des entreprises pour des pays qui sont eux-mêmes en crise. Donc la Nouvelle Alliance, elle est plutôt révélatrice, j'ai envie de dire, de cette tendance qu'on a trouvée déjà et vue dans beaucoup de secteurs. C'est juste que c'est nouveau, assez nouveau dans l'agriculture sur ces dernières années. Et que, en fait, c'est très révélateur aussi de politiques complètement assumées, comme en France, on parle beaucoup de la diplomatie économique. Cette nouvelle alliance, en effet, est l'exemple typique d'un État d'investissement public qui se font aux côtés d'investissements privés, avec un objectif de rentabilité pour les entreprises qui prévaut parfois sur le développement même du territoire.
C'est-à-dire que moins qu'un échec, c'est plus une volonté assumée et délibérée.
Aujourd'hui, elle est clairement assumée de faire appel aux investisseurs privés. Et on voit que ces alliances publiques-privées se multiplient déjà. On a une nouvelle alliance qui a été créée pour lutter pour l'agriculture intelligente face au climat. Et c'est la même recette, c'est les mêmes États, États-Unis, Pays-Bas, France, Angleterre, c'est les mêmes entreprises, Yara, Cargill, Monsanto qui va bientôt arriver, McDonald's, Coca-Cola. Voilà les entreprises avec qui les États se mettent aujourd'hui en marche pour développer les marchés finalement dans les pays du Sud.
Alors on va décortiquer un peu la façon dont ça se passe. Cette nouvelle alliance, vous avez cité un certain nombre de pays, un certain nombre d'entreprises. Quel cadre est-ce qu'elle s'est donné? Quels objectifs? Quelle structure? Comment ça marche?
Alors, la nouvelle alliance a donc été lancée il y a 2 ans et elle repose sur 3 acteurs qui vont avoir 3 formes d'engagement, on va dire, d'objectifs à réaliser. Le premier acteur, c'est les États membres du G8, donc, qui s'engagent à faire des investissements, des financements publics pour développer le développement rural et l'agriculture dans ces 10 pays. L'autre acteur majeur dont on a déjà parlé, ce sont les entreprises, donc une centaine près de multinationales de l'agroalimentaire et quelques entreprises nationales, mais qui ont beaucoup de difficultés à être vraiment actives dans cette alliance. Et puis le troisième acteur, c'est les États africains, c'est 10 États, qui eux s'engagent non pas sur des financements publics, ni des schémas d'investissement ou des projets, mais s'engagent sur des modifications législatives. Et donc ça, c'est un aspect très particulier de cette nouvelle alliance, c'est qu'on va au-delà d'un simple investissement qui peut être réversible ou qui peut s'arrêter, là on demande aux États de modifier leur législation pour favoriser, pour créer un environnement favorable. C'est l'expression utilisée par les États membres du G8 et les États africains.
Elle est même plus jolie que ça, l'expression complète, c'est un environnement favorable au climat des affaires.
Oui, au climat des affaires, un environnement favorable aux investissements, il y a plusieurs expressions, mais c'est vrai que cette notion d'environnement favorable cache en fait derrière des réformes à long terme qui vont durablement ancrer un certain modèle dans ces pays d'Afrique. C'est des réformes foncières, et on sait que le foncier est le terreau de plusieurs conflits, de plusieurs difficultés. Des cas d'accaparement de terre en Afrique sont très courants. Il y a aussi toutes les questions fiscales et financières. En effet, beaucoup de ces outils, ces modifications législatives amènent à des dérégulations qui vont permettre finalement aux entreprises de pouvoir arriver dans ces pays sans payer de taxes ni d'impôts. Donc là, on est vraiment sur des dispositions qui vont ancrer à long terme, comme je disais, un certain modèle.
Maureen Jorin, je voudrais quand même comprendre un peu mieux. Là, vous nous avez brossé les grandes lignes, les trois parties prenantes, puisque c'est le terme à la mode, hein, parties prenantes. Les entreprises que vous avez citées ont toutes parties liées, effectivement, alors avec l'agroalimentaire ou avec les semences. Est-ce qu'on peut considérer que ce sont des experts en la matière agricole et nutritionnelle? Est-ce que ça serait pour ça qu'ils ont été invités, à moins qu'ils se soient présentés d'eux-mêmes, d'ailleurs, ça vous allez nous le préciser? Et est-ce qu'ils auraient fait une sorte d'audit de la situation dans les pays qui leur aurait permis de comprendre qu'il y a un certain nombre de blocages? Vous avez parlé de nécessaires refontes structurelles des États et des législations. Donc, expliquez-nous un peu tout ça.
Déjà, il faut comprendre comment les entreprises ont été finalement invitées dans cette nouvelle alliance. Et ça, c'est la première difficulté qu'on a, c'est que c'est très flou. Il n'y a pas de critères de sélection officiels qui ont été publiés. On ne sait pas donc sur quelle base réelle les entreprises ont été invitées dans les discussions et puis ensuite à joindre la nouvelle alliance et à faire des projets d'investissement. Nous, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a 3 secteurs principaux qui sont représentés par ces entreprises. Et le premier, déjà, répond en partie à votre question. Est-ce que c'est des experts du développement rural et agricole? Clairement, l'un des premiers secteurs présents, c'est le négoce de matières premières, donc le trading, comme on dit. Et donc là, ce sont des experts de la vente et de l'achat, ça c'est pour sûr, et des marchés internationaux. En termes de développement rural, beaucoup moins. Et pourtant, on confie, par exemple, dans la nouvelle alliance, un exemple très concret d'une entreprise de négoce de matières premières française qui s'appelle Louis Dreyfus, à qui on a demandé de faire du développement de riziculture en Côte d'Ivoire. Donc là, on est vraiment sur un acteur du négoce qui annonce se lancer dans le développement rural. Donc ça, c'est vraiment ça qui nous a interpellés en premier. Puis on voit les autres secteurs qui sont présents. En effet, c'est le secteur des semences. et notamment des semences OGM. Là encore, des projets que ces acteurs annoncent vouloir développer, on n'est pas du tout dans du développement rural. En fait, on est dans la distribution gratuite de semences génétiquement modifiées, comme c'est le cas, par exemple, dans la Nouvelle Alliance en Tanzanie. Donc, on est vraiment là sur 5 millions de semences modifiées de maïs qui vont être distribuées gratuitement par Monsanto dans les deux prochaines années. OK, mais que va-t-il se passer les années d'après ? On est là vraiment sur un acteur qui souhaite introduire un marché et donc se faire une première action commerciale plutôt que vraiment de développement. Donc là encore, sur les acteurs des semences, on voit clairement vers quelle orientation on est en train d'aller. Et puis enfin, les derniers acteurs présents dans la Nouvelle Alliance, le troisième secteur clé, c'est les cultures de rente, les cultures d'exportation. Donc là, oui, on est dans des acteurs qui ont l'habitude de développer sur de très grandes surfaces, de très larges surfaces, des plantations d'export. Mais est-ce que ces plantations répondent aux deux objectifs annoncés de la Nouvelle Alliance, à savoir lutter contre la faim de ces pays? Et là, on n'est en effet pas sur des productions alimentaires, c'est la première chose qui nous interpelle. Et puis, ce sont des acteurs qui sont en quasi-monopole sur leur filière, qui ont des pouvoirs commerciaux déjà énormes dans ces pays. Et donc, en fait, on continue à accentuer une déstructuration du développement rural de ces pays, et on met de plus en plus en péril l'agriculture paysanne dans ces pays.
Vous disiez les deux objectifs annoncés.
Alors oui, les deux objectifs annoncés par la Nouvelle Alliance, c'est de lutter contre la faim et donc de sortir 22 millions de personnes en Afrique subsaharienne de l'insécurité alimentaire et de permettre à 22 millions de personnes de sortir également de la pauvreté en Afrique. Donc il y a un objectif de développement économique et de développement agricole et alimentaire.
Mais comment est-ce qu'ils comptent s'y prendre pour lutter contre la pauvreté, par exemple ?
Par exemple, une des choses qui est mise en œuvre par beaucoup d'entreprises dans le cadre de la Nouvelle Alliance, c'est des formes de contractualisation, c'est-à-dire de s'engager, de faire des contrats avec des petits producteurs, avec en annonçant que cela va leur créer un revenu plus sûr et à plus long terme. Bon, nous, ça nous interpelle sur deux points. C'est déjà, en fait, on crée des ouvriers agricoles et non pas...
Expliquez peut-être déjà ce que c'est que la contractualisation. Oui.
Donc finalement, c'est la nouvelle recette magique, j'ai envie de dire, des entreprises qui ont bien compris que les cas d'accaparementaire avaient fait bouger les lignes. Les mobilisations paysannes, des réformes foncières ont lieu dans beaucoup de pays à cause de ces cas d'accaparementaire. Et les entreprises, aujourd'hui, souhaitent vraiment se prémunir de toute attaque, de toute menace de faire des accaparementaires. Donc ça, on peut s'en féliciter. C'est qu'elles sont conscientes des enjeux sur ces cas-là. Mais en fait, ça se traduit par une forme indirecte de prise des terres. Et donc, les entreprises ont décidé de contractualiser avec des paysans. Alors, contractualiser, c'est par exemple sur 50 000 ou 100 000 hectares, signer des contrats avec 5 000, 10 000 paysans qui vont s'engager pour 2, 3, 4, 5 ans à faire une production très spécifique qu'ils vous revendront automatiquement. C'est l'engagement du contrat. Et en contrepartie, l'entreprise peut promettre un certain nombre de services, du conseil agricole, la distribution des semences, puisqu'elle peut faire des achats au gros qui font que ça coûtera moins cher aux paysans, tout ce qui est pesticides, intrants, tout ça le fournir aux paysans, et également des routes, etc. Donc ça, c'est la forme, j'ai envie de dire, de la contractualisation, et on retrouve ça beaucoup dans le commerce équitable. Donc il y a des formes satisfaisantes de contractualisation qui existent. Le problème, c'est que dans la Nouvelle Alliance, on est vraiment sur de la contractualisation de base, donc avec des contrats pour les paysans qui les engagent sur l'ensemble de leur production, mais très peu de services qui sont mis en regard de ces échanges-là, et finalement aussi avec des paysans, des syndicats dans les filières qui ont peu connaissance de ces contractualisations, en quoi ça les engage, et ce qu'ils peuvent aussi tenter de négocier. Et donc aujourd'hui, on est quand même sur des contrats qui sont très déséquilibrés et qui nous posent question sur la possible maîtrise du foncier par les paysans eux-mêmes.
Mais est-ce que tout de même, ça leur assure un revenu fixe et pérenne ?
Alors là, c'est là où ça va répondre à un autre élément de tout à l'heure sur lequel je n'avais pas rebondi, mais c'est... comment les entreprises, finalement, sont rentrées dans la Nouvelle Alliance? Est-ce qu'elles ont fait... elles ont montré qu'elles avaient fait des études, qu'elles étaient expertes de ce territoire? Pas du tout. Et même, elles ont annoncé des projets de développement sans être sûres de pouvoir les faire. Et donc, la Nouvelle Alliance a été lancée il y a 2 ans maintenant. On est toujours en phase de projets pilotes pour ces entreprises. Donc on a des projets qui sont développés sur 200, 300 hectares. On pense que le gros des projets va se faire à partir du milieu de cette année. Mais donc les entreprises sont encore en phase pilote depuis 2 ans pour étudier, savoir si ce à quoi elles s'étaient engagées, finalement, elles vont pouvoir le réaliser. Alors on a des retours pour le moment, mais donc sur ces petite surface, et donc ça touche pas encore les questions de revenus agricoles, mais en tout cas on a déjà des retours d'insatisfaction de plusieurs syndicats agricoles sur par exemple les conditions du contrat, sur la qualité des semences. Il y a aussi des mobilisations qui se font dans plusieurs pays comme au Mozambique, comme au Burundi aussi, autour des questions de zones de libre-échange qui sont mises en place via l'agriculture. Donc il y a des premiers retours aujourd'hui en tout cas qui montrent que cette nouvelle alliance pose question au niveau local autant qu'au niveau international.
Et les entreprises elles-mêmes, vous avez l'impression qu'elles sont satisfaites pour l'instant ? Elles continuent ou bien est-ce qu'elles commencent elles aussi à se poser des questions sur ce projet qui a peut-être été lancé un peu vite, dans l'allégresse et sans suffisamment de réflexion ?
Alors là encore, on est sur des situations différentes selon les entreprises. Et puis je reviens sur le fait que les informations sont très difficiles à obtenir sur la Nouvelle Alliance et les entreprises communiquent très peu sur leur implication dans la Nouvelle Alliance. Mais des retours qu'on a obtenus, et notamment ceux d'Oxfam qui a travaillé sur le cas au Burkina Faso, c'est que les entreprises nationales aujourd'hui qui sont impliquées dans la Nouvelle Alliance ne sont pas satisfaites. Et en fait,
Alors qui sont les entreprises nationales ? Vous nous avez parlé pour l'instant de très grandes multinationales. Vous avez cité Monsanto, Cargill, Louis Dreyfus.
Alors, en fait, l'annonce faite par la Nouvelle Alliance, c'était on va soutenir le développement, la libération même, c'est ça l'expression, du pouvoir du secteur privé, en soutenant les entreprises nationales, locales, et les entreprises internationales, multinationales. Et donc, dans les pays, il y a deux listes d'entreprises, celles dites nationales et celles dites internationales, plus ou moins équilibrées selon les pays. Par exemple, au Bénin, c'est à peu près 50-50. On voit qu'en Côte d'Ivoire, c'est deux tiers de multinationales et un tiers d'entreprises nationales. Donc, il n'y a déjà pas de réel équilibre sur leur implication. Et ensuite, ces entreprises dites nationales, il faut savoir que dans le paysage, j'ai envie dire de l'agroalimentaire en Afrique subsaharienne, on retrouve beaucoup d'investisseurs étrangers, notamment français, qui sont historiquement impliqués dans ces entreprises nationales. Donc déjà, ça fait que la classification des entreprises dites nationales est un peu différente. Et donc quand on regarde vraiment des entreprises qui appartiennent au tissu local de Côte d'Ivoire, aussi au Burkina Faso ou au Sénégal, finalement, ces entreprises aujourd'hui n'ont pas engagé les investissements, n'ont pas engagé les projets. Parce que ces entreprises pensaient qu'en rentrant dans cette nouvelle alliance, elles obtiendraient l'accès au crédit pour pouvoir développer leurs infrastructures, développer l'outil manufacturier. Et ces entreprises locales n'ont pas eu accès à des financements, n'ont pas eu accès à des crédits. Et donc aujourd'hui, ils disent qu'on ne peut pas développer de nouveaux projets. Donc on reste sur notre cœur de métier, les activités qu'on faisait déjà. Par contre, les entreprises multinationales, elles, ont obtenu des financements, ont obtenu des crédits de la part des bailleurs internationaux et donc ont pu développer ces activités supplémentaires. Et donc, en fait, aujourd'hui, quand on regarde la nouvelle alliance dans les pays, c'est les multinationales qui mettent en œuvre des projets et les entreprises nationales sont quasiment absentes, en fait, du paysage.
Alors, résumons la situation, Maureen Jorin. Les multinationales entrent dans la question alimentaire parce que les États du G8 n'avaient pas réussi à rassembler les sommes promises pour cette fameuse aide alimentaire. Aujourd'hui, on s'aperçoit que les capitaux affluent effectivement vers les multinationales. C'est-à-dire là, cette fois, il n'y a pas de problème de financement, apparemment. En revanche, pour les entreprises dites nationales, ça coince davantage. Mais avec tout ça, on est complètement hors sol. Où sont ceux qui étaient censés être les bénéficiaires de tous ces programmes, les petits paysans, les pauvres, ceux qui sont mal nourris ?
C'est également la question qu'on s'est posée en fait au tout début quand on a décidé de travailler sur cette initiative. La première chose qui nous a interpellés quand on a les premiers cadres de coopération qui sont les feuilles de route par pays de mise en œuvre de cette nouvelle alliance, tout bêtement on s'est dit c'est quoi les indicateurs de réussite de cette initiative et on a cherché et pour l'ensemble des pays on trouve des indicateurs qui n'ont strictement rien à voir avec des questions de sécurité alimentaire, donc de lutte contre la malnutrition, d'un meilleur contrôle des prix, d'une meilleure stabilité des prix sur les marchés locaux. Aucun indicateur de ce type qui existe pourtant, que la FAO a déjà développé, que le FIDA utilise également, que certaines agences de développement utilisent. Ces indicateurs existent et ce n'est pas du tout ceux qui ont été choisis. Ceux qui ont été choisis, c'est le doing business tout d'abord. Alors je ne sais pas si vous connaissez cet indicateur de la Banque mondiale qui traduit, c'est l'indicateur de facilité des affaires. Alors là, on se souvient de l'expression « l'environnement favorable aux investissements », et ben c'est exactement ça, c'est un indicateur qui classe les pays selon s'il est plus ou moins facile de faire des affaires dans le pays. Donc ça prend en compte les taux d'imposition, la facilité de création d'une entreprise, mais aussi voilà, toutes les dispositions réglementaires, légales, fiscales pour les acteurs privés. Donc ça, c'est une des grosses questions et première question qu'on a posée aux États, c'est comment pouvez-vous annoncer une nouvelle alliance pour la sécurité alimentaire et la nutrition quand rien, même pas dans l'évaluation ou dans les projets que vous dites vouloir développer, rien n'a attrait aux questions de sécurité alimentaire et de nutrition et de pauvreté d'ailleurs.
Il y a quelque chose de surprenant à entendre que tous ces mastodontes de l'agroalimentaire qui sont des entreprises qui gagnent énormément d'argent, qu'est-ce qu'elles peuvent escompter, gagner dans des pays qui sont les plus pauvres de la planète ?
Alors déjà, toutes ces entreprises aujourd'hui ont des stratégies justement pour ce qu'on appelle le bas de la pyramide, donc les populations les plus pauvres, avec des produits qui sont développés spécialement pour ces consommateurs-là.
Par exemple ?
Alors ça va être Nestlé, par exemple, qui a des stratégies sur le lait maternel, par exemple, avec des tarifs qui peuvent être du simple, multipliés par 10, et la qualité aussi est complètement différente quand on les compare avec des produits, par exemple, qu'on trouverait dans un supermarché français. C'est pareil pour Mars, qui développe beaucoup de chocolat, mais pas sous la même forme et sous les mêmes marques que ce que nous, on va trouver en Europe, et avec aussi, en question nutritive, en contrôle des sucres, des matières grasses, des normes qui sont aujourd'hui différentes.
Donc différentes meilleures.
Clairement, les produits qui sont développés aujourd'hui par l'industrie agroalimentaire, il y a eu beaucoup d'enquêtes qui ont été menées là-dessus, sont très mauvais et ont des incidences très néfastes, notamment dans les pays du Sud. On voit aujourd'hui des crises alimentaires qui se traduisent aussi par des augmentations de l'obésité énorme et qui est due à une nutrition très mauvaise, notamment des enfants aujourd'hui dans plusieurs capitales. Donc on est sur des crises alimentaires qui se révèlent par de la surnutrition et de la malnutrition et de la sous-nutrition. Et ces acteurs de l'agroalimentaire sont complètement impliqués dans ces situations-là. Et donc, ils cherchent ces marchés-là aujourd'hui. La seule chose qu'ils demandent en échange, c'est de payer moins d'impôts, c'est d'avoir l'ouverture sur le marché plus facile. Et donc, c'est ce que leur promet la nouvelle alliance, c'est-à-dire venez. Finalement, vous n'êtes que quelques entreprises qu'on aura triées sur le volet et qui ne vont pas se concurrencer. Vous êtes chacune d'un secteur différent. Donc, vous pouvez vous répartir le marché. Nous, on vous promet que vous n'allez pas payer d'impôts pendant 10 ans. Vous n'allez pas à payer de taxes foncières, vous allez avoir une facilité pour créer votre entreprise, et on a tout un marché de consommateurs qui sera à votre disposition. Et finalement, ces entreprises bénéficient à la fois d'appui financier, mais aussi politique, pour pouvoir vraiment prendre de nouveaux marchés. Le panier de la ménagère d'Afrique subsaharienne est en train de beaucoup évoluer ces dernières années, et ces entreprises agroalimentaires sont pleinement actrice finalement de cette situation-là. Et il faut aider aujourd'hui en face ces associations, ces réseaux de syndicats paysans qui tentent de maintenir les cultures traditionnelles, les cultures locales, parce que ça, c'est une des clés de la sécurité alimentaire que le G8 a complètement oublié. C'est que l'un des premiers leviers pour lutter contre la faim, c'est d'assurer que les gens au niveau local puissent assurer leur propre sécurité alimentaire.
Pourtant, on aurait pu croire que ce message-là était passé. Il y a eu des déclarations internationales pour promouvoir la petite agriculture familiale. Il y a aussi l'exemple tragique de la Révolution verte. Ce qui est curieux quand on vous écoute, Brian Joran, c'est qu'on a l'impression que tout recommence. On a l'impression d'entendre à nouveau parler de cette fameuse Révolution verte qui était censée contribuer à l'épanouissement de toutes les populations pauvres et qui en fait les a enfoncées dans la misère.
Alors c'est fatigant des fois, on a l'impression de devoir finalement revenir à des constats qu'on pensait partager et acquis par tous depuis plusieurs années. Typiquement le développement de l'agriculture familiale et paysanne, de l'agroécologie. En effet, les États nous disent depuis 4-5 ans qu'ils sont complètement d'accord que c'est ce modèle qui va permettre de lutter contre la faim, notamment en Afrique. Et c'est pas pour rien que 2014 s'était déclaré par les États-Unis année internationale de l'agriculture familiale. Il y a eu beaucoup d'événements dont tous les États étaient d'accord pour dire que c'est ce modèle qu'il faut soutenir. En France aussi, Stéphane Le Foll a fait plusieurs manifestations sur cette thématique, la société civile aussi. Donc le constat est là, est partagé, les scientifiques le disent, 70% de notre alimentation vient de l'agriculture familiale aujourd'hui, c'est ces acteurs-là. À l'échelle planétaire, oui. Et donc c'est bien ces acteurs-là qui sont en mesure de pouvoir nous aider à lutter contre la faim. Donc ça c'est dans le discours, j'ai envie de dire, on a gagné sur le discours, malheureusement on a perdu sur la mise en œuvre, parce que c'est pas ces acteurs-là aujourd'hui qui sur le terrain sont réellement appuyés, c'est pas l'agriculture familiale et paysanne qu'on retrouve au cœur des projets des agences de développement, des ministères de l'agriculture, on est bien beaucoup plus sur du méga projet, et donc en fait c'est des acteurs qu'on n'arrive pas à toucher aujourd'hui, et ça pose des vraies questions si on veut lutter durablement contre la faim, comment réintroduire ces acteurs, comment les remettre, j'ai envie de dire, au centre de l'échiquier du développement rural et des investissements dans l'agriculture.
Alors, est-ce que c'est pas là que les États auraient un rôle à jouer pour rééquilibrer et empêcher que la balance penche trop en faveur des multinationales? Vous avez parlé à la fois des États africains qui ont pris des engagements, alors peut-être qu'il est temps de les expliquer un peu mieux, de les définir.
Alors oui, donc ces engagements législatifs des États africains, donc c'est pour créer un environnement favorable à ces investissements, ils s'engagent à modifier un certain nombre de leurs législations sur trois secteurs principaux. Tout d'abord le foncier, faciliter l'accès au foncier pour les investisseurs, et souvent n'est pas précisé si on parle d'investisseurs nationaux ou d'investisseurs étrangers, de petits paysans ou de grands agro-industriels. En tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des textes qui ont été discutés au niveau international sur le foncier et la lutte contre l'accaparement des terres. Et ces textes vont être en partie pris en compte par les États, mais on voit déjà arriver des mises à disposition de terres sur de grandes surfaces dans le cadre de la Nouvelle Alliance. Par exemple, le Malawi s'est engagé très clairement, hein, dès le début de la Nouvelle Alliance, à mettre à disposition 200 000 hectares de terre, alors qu'on sait que c'est un territoire où il y a des difficultés d'accès à la terre pour nombre de petits paysans aujourd'hui, donc 200 000 hectares qui vont être proposés à des agro-industriels pour des cultures d'exportation. Donc c'est déjà tout expliqué, avec un dispositif fiscal qui sera là pour soutenir l'investissement. Donc on voit que le foncier, ça reste quand même une question très importante. Et finalement, cette nouvelle alliance, en demandant aux États de mettre en place des législations foncières, oblige les États à aller plus vite sur des dispositifs qui étaient souvent en discussion dans les États. On le voit en Côte d'Ivoire, notamment, par exemple. Il y a des discussions autour du foncier depuis plus de 10 ans. C'est un processus qui prend du temps et c'est un processus qui peut être difficile. Et finalement, la nouvelle alliance, j'ai envie de dire, presse les États à ce qu'ils finissent ces réformes foncières, à ce qu'ils finissent tous ces codes législatifs fonciers pour pouvoir mettre plus vite en place les investissements.
Mais alors, dans le même temps, ces entreprises redoutent les mobilisations contre l'accaparement des terres et elles sont en train d'accélérer et de précipiter quelque chose qui s'apparente tout de même énormément à de l'accaparement des terres.
Alors, comme je disais, c'est vraiment une forme indirecte. Ces réformes ou ces discussions sur le foncier dans les pays peuvent se traduire non pas par la mise à disposition directe de terres comme le fait le Malawi, mais plutôt l'orientation des investissements par région. Donc, par exemple, dire à une entreprise, on lui donne telle région en Côte d'Ivoire, par exemple sur le riz en Côte d'Ivoire, le pays a été divisé en trois grandes régions qu'on a donné à trois grandes entreprises qui auront un accès facilité au foncier des petits paysans parce qu'elles vont contractualiser avec ces acteurs. Donc finalement, elles vont, par exemple dans le cas de l'investissement auquel s'était engagé Louis Dreyfus, c'était contractualiser avec 10 000 petits paysans sur 100 000 à 200 000 hectares. Donc bien sûr, Louis Dreyfus ne faisait pas un achat de 200 000 hectares, mais au final, si on accumulait tous les paysans avec lesquels il allait signer un contrat, ces cultures occupaient une surface de 100 000 à 200 000 hectares, et ça c'est parce que la Côte d'Ivoire voulait faciliter l'accès de cette région et de ce foncier à Louis Dreyfus.
C'est-à-dire, pour revenir à ce que vous disiez précédemment, que ces 10 000 petits paysans seront désormais occupés à produire du riz et exclusivement du riz, et ils n'ont plus de terre pour des cultures vivrières.
Alors ça dépend des dispositions qui peuvent être négociées autour des contrats, mais a priori, là, sur des cultures de riz, on est sur des cultures qui vont recouvrir entièrement la parcelle et en effet engager avec l'entreprise sur cette culture d'une certaine semence pour une vente à un certain prix. Donc aussi en termes de capacité de pouvoir faire jouer au niveau commercial en fonction du prix, en fonction de l'évolution du prix, il y a aussi du commerce régional en Afrique qui est assez important au niveau de ces questions-là. Là, on enlève quand même beaucoup de capacité aux producteurs qui se retrouvent pieds et poings liés à une seule entreprise pour une seule culture.
On est toujours à l'état de projet pilote ou ça s'est déjà engagé ?
Alors concernant les investissements pour le riz, il y a des projets pilotes pour les deux autres entreprises de la Nouvelle Alliance qui sont donc Novelle et ETG. ETG, c'est une entreprise qui est basée à Singapour et à l'île Maurice, paradis fiscal bien connu. Et l'autre entreprise Novelle est une entreprise suisse. Concernant Louis Dreyfus, dont on parlait, les dernières informations qu'on a obtenues, c'est que, et donc ça c'est aussi, ça dit beaucoup sur ce que vaut un engagement d'une entreprise dans la Nouvelle Alliance. Je vais refaire l'histoire rapidement, mais donc Louis Dreyfus a annoncé il y a deux ans en signant un contrat avec Ouattara. Hein, Margaretha Louis Dreyfus était rendue en Côte d'Ivoire, donc signant en grande pompe, pour développer de la riziculture sur plus de 100 000 hectares dans le cadre du programme Autosuffisance Riz du pays, donc vraiment un objectif de sécurité alimentaire de produire pour la Côte d'Ivoire. Et donc ils ont négocié, attenant à cet investissement, tout un tas de dispositions encore pour plus facilement rentrer sur le marché et rentrer dans le pays.
Dispositions législatives donc.
Notamment fiscales aussi, il y a un code des investissements très favorable aux investisseurs étrangers qui vient d'être adopté en Côte d'Ivoire et ils étaient assurés de pouvoir bénéficier de ce type de disposition. Et donc, depuis, Louis Dreyfus a lancé un projet pilote dont on ne connaît pas l'évaluation qu'ils ont fait, mais par contre on sait que Margarita Louis Dreyfus aurait décidé de réorienter son investissement, en tout cas de le mettre en pause aujourd'hui, c'est ce qui a été annoncé dans la lettre du continent africain, pour pouvoir se repositionner en importateur de riz pour le marché ivoirien. Donc on avait un acteur qui était à l'origine venu pour produire du riz pour le marché en s'appuyant sur la main-d'œuvre locale et qui finalement, et on ne sait pas pour quelle raison précise, annonce préférer se repositionner donc en importateur et donc menacer directement le développement du riz sur le marché local. Et ça, c'est autre chose qui nous a beaucoup alerté sur la Nouvelle Alliance, c'est qu'on a des entreprises qui ont fait des lettres d'intention, c'est une très jolie expression encore, on a... C'est vraiment un beau vocabulaire dans cette nouvelle alliance, donc des lettres d'intention où elles expliquent leur intention d'investissement, quel type de projet elles pensent développer.
Ça fait partie des dossiers de la Nouvelle Alliance, c'est ça ? Chaque entreprise doit expliquer ce qu'elle compte faire.
Alors, dans la Nouvelle Alliance, pour chaque pays, on a ce qu'on appelle un cadre de coopération. Donc, un cadre de coopération pour le Bénin, pour la Côte d'Ivoire, pour le Mozambique, pour le Malawi. Et dans chaque cadre de coopération, on a les engagements financiers des États membres du G8 pour ce pays, les engagements législatifs du pays, donc concernant sa propre législation, et les lettres d'intention des entreprises qui vont être impliquées dans le développement du pays. Et donc ces lettres d'intention, en fait, n'ont aucune valeur.
D'autant que ce ne sont que des extraits, je crois.
Voilà, ce ne sont que des extraits. Pour plusieurs entreprises qu'on retrouve dans plusieurs pays, c'est en fait un copier-coller de leurs objectifs régionaux à 2020-2025, donc rien à voir avec concrètement, dans le cadre de la Nouvelle Alliance, quel type de projet, qui était à l'origine la question. Et puis donc avec aucune possibilité de dire à l'entreprise, est-ce que vous avez tenu vos engagements ou pas, parce que très peu de descriptions précises. Et puis quand il y en a, et ben on le voit dans le cadre de Louis Dreyfus, apparemment, il est possible de pouvoir complètement se réorienter sans que cela n'entraîne aucun souci avec les autres membres de l'Alliance. Donc voilà, ça c'est aussi une des grosses interrogations aujourd'hui en termes de suivi des acteurs privés. Et finalement, entrer dans la Nouvelle Alliance, à quoi cela les engage ? On n'a aucune réponse sur cette question-là aujourd'hui.
France Culture, terre à terre.
Ruth Stegassi.
Maureen Jorin, restons un instant encore sur le foncier. Parce que, au-delà de ces situations, on va dire, de facilitation de l'entrée sur les terres, il y a également, vous le disiez, des régions entières, des zones entières qui sont dévolues à cette nouvelle alliance et qui bénéficie de facilités encore plus extraordinaires. Ce sont des sortes de zones spéciales. Alors je pense à Bagré, entre autres. Il y a également ce projet ProSavana. Vous pourriez nous donner ces deux exemples qui sont très parlants.
En fait, la nouvelle alliance repose aussi sur un format de développement qui est très en vogue, j'ai envie de dire, en Afrique ces dernières années, et qu'on a déjà retrouvé dans d'autres secteurs, hein, des zones franches, par exemple, pour le secteur industriel en Asie du Sud-Est, je pense notamment, où, donc, un lieu, un territoire où on dédie toutes les facilités pour les investisseurs. Et aujourd'hui, se développe beaucoup en Afrique des zones franches agricoles, des couloirs de croissance, des corridors de croissance, on appelle ça aussi, il y a beaucoup d'expressions qui sont utilisées.
Et qui, c'est intéressant de le souligner, viennent beaucoup du langage environnemental. On parlait tout à l'heure du climat favorable au climat des affaires, maintenant on parle de corridors de croissance.
Alors, même si la question du climat, et ça c'est autre chose à noter, est complètement absente dans la nouvelle alliance, donc ça on dirait qu'ils ont oublié un enjeu en route, parce que ça aurait été vraiment intéressant d'introduire cette notion-là également. En effet, il y a pas mal d'expressions qui font écho à cela. Et donc ces zones franches agricoles, c'est des paradis fiscaux agricoles, c'est comme ça qu'on a décidé de les nommer nous, parce que c'est vraiment ça, c'est mettre sur un territoire dédié toutes les facilités pour les investisseurs, des facilités d'accès aux fonciers. On lui met à disposition des périmètres irrigués, en général les meilleures terres.
Il faut préciser qu'en Afrique, le foncier appartient aux États, et ça, c'est encore un legs de l'époque coloniale.
Alors, il y a beaucoup de dispositifs différents, en fait, qui existent aujourd'hui en Afrique. Et c'est ça qui rend difficile aussi de pouvoir traiter la question foncière de manière globale. En effet, il y a des pays où on est encore sur de la propriété domaniale, et avec l'État qui choisit aujourd'hui d'une répartition du foncier, donc quel type de zone il va mettre à disposition d'acteurs privés, quel type de zone il propose à des communautés. On a aussi des situations où on a eu une répartition du foncier qui s'est fait bien avant, mais de manière inégale, donc c'est pour ça aussi qu'on a des conflits fonciers. On a des endroits où on a de la propriété individuelle, des endroits où c'est de la propriété collective. Donc en effet, sur le foncier, on est sur des dispositifs très différents, mais en tout cas, ces zones franches agricoles, en général, justement, se font fi de ces situations et de ces conflits, et disent, bon, bah, par exemple, typiquement sur le cas de la zone de Bagré qui a été étudiée par Oxfam, donc le pôle de Bagré est un pôle de croissance où on retrouve notamment des dispositifs fonciers et fiscaux pour faciliter les investissements. Il faut savoir que c'est une des seules zones irriguées qu'on a au Burkina Faso, donc c'est sur cette zone qu'on a décidé de donner de l'accès au foncier pour les entreprises. Alors on a eu une répartition du foncier, donc plus de 2/3 du foncier va être donné à des acteurs privés, et 1/3 de foncier va être réparti entre plus de 20 000 familles qui vivent sur la zone et qui ont en partie été déplacées pour pouvoir permettre les autres investissements privés. Donc c'est une situation aujourd'hui, il faut beaucoup surveiller parce que les terres sont en train d'être réparties avec peu d'informations sur les critères de la manière dont vont être données ces terres aux populations. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que le pôle de Bagré se fait sur le foncier sur le même format que Pro Savana, donc qui est une autre situation de pôle de croissance, de corridor de croissance très connu aujourd'hui, où là encore, on a donné, sur Mozambique, Tanzanie, on a des situations, parce que c'est un corridor de croissance qui est très, très, très étendu, beaucoup plus que le pôle de Bagré. Et là encore, on fait une répartition du foncier pour les investisseurs privés, au détriment des populations locales, sur les meilleures terres, qui sont, irriguées avec l'ensemble des infrastructures attenantes à un investissement. Et donc, en fait, ces pôles de croissance, sur le foncier, créent de la concurrence déloyale pour les petits agriculteurs, pour les paysans, puisque, en plus, et ça, c'est vraiment quelque chose qui vient se rajouter et qui peut rendre compte des difficultés des paysans sur place d'avoir accès et de faciliter leur développement propre, c'est que, en général, dans beaucoup de pays, les paysans n'ont pas de statut, n'ont pas de reconnaissance légale. Et donc, à ce titre-là, ne peuvent pas accéder aux facilités qui sont mises en place sur ces territoires parce qu'ils ne sont pas reconnus comme des entreprises, comme des acteurs privés qui veulent faire une demande de terre, qui veulent avoir accès à des dispositions fiscales, accès aussi à tout l'outil industriel qui peut être développé, à l'irrigation par exemple aussi. Et donc, on est vraiment typiquement sur une situation où on laisse les petits paysans de côté et on s'assure que des acteurs privés, bien souvent de l'étranger, bénéficient de l'ensemble des dispositions avec un serpent finalement qui se mord la queue, puisque le problème d'origine, c'est qu'on est en manque d'investissement public dans ces zones, mais qu'en faisant venir des entreprises et en assurant qu'elles ne paieront aucune taxe et aucune contribution sur les ressources qu'elles vont extraire, on ne va jamais régler cette question d'investissement public qui aujourd'hui fait grand défaut en Afrique.
Maureen Jorin. La conversation n'arrête pas de déraper. C'était sur l'aide alimentaire, sur l'aide aux plus pauvres, sur le fait d'aider les plus pauvres, et on sait que ce sont souvent les paysans d'ailleurs, à se nourrir correctement. Et à chaque fois, on se retrouve dans des histoires de finances internationales qui n'ont pas grand-chose à voir. Alors, est-ce que ça serait parce que nous n'avons pas encore parlé du troisième partenaire de ces accords, c'est-à-dire les pays du G8, qui sont censés contribuer, et vous le disiez tout à l'heure d'ailleurs, l'argent n'a pas trop de difficultés à arriver jusqu'aux multinationales et donc à permettre un certain nombre d'investissements. Vous avez parlé des difficultés liées au manque d'infrastructures. Est-ce que les pays du G8 se chargeraient d'améliorer les infrastructures, de faire des routes par exemple? On sait que c'est important, des routes pour pouvoir emmener un peu plus loin la production locale, pour pouvoir la vendre sur les marchés. Est-ce que ça serait ça, la clé de voûte de tout ce dispositif un peu étrange ?
Alors déjà, l'objectif, hein, c'est au-delà de l'aide alimentaire, c'est vraiment le développement agricole et rural. Et donc, en effet, les États du G8 se sont engagés sur des investissements. Alors déjà, nuançons d'une première fois ces investissements. En général, c'était des choses qui étaient déjà prévues, qui étaient finalement déjà dans les canaux. On n'a aucun investissement supplémentaire, nouveau.
C'est-à-dire qu'on n'a pas mis d'argent supplémentaire, c'était déjà là.
En fait, c'est des engagements financiers qui étaient déjà là, des projets qui étaient déjà prévus ou en cours de discussion, sur lesquels on a mis un tampon, Nouvelle Alliance, mais ce n'est pas des engagements financiers supplémentaires. Donc en fait, par exemple pour la France, les engagements de la Nouvelle Alliance, c'est ce que la France donne en aide publique au développement pour ces 10 pays sur les 3 années déclarées dans le cadre de la Nouvelle Alliance. Et donc, ni plus ni moins ce calcul-là, et rien de nouveau dans le cadre de la Nouvelle Alliance. Donc ça, c'était aussi une déception de la part de certains États africains qui n'avaient pas compris qu'il n'y aurait pas de contrepartie supplémentaire. Et puis ensuite, ce qui nous a intéressé de regarder aussi, c'est quel type d'investissement finalement financent aujourd'hui les États membres du G8 dans le cadre de la Nouvelle Alliance. Et en effet, on est encore là, une fois, souvent assez loin de ce que nous, on mettrait dans la case sécurité alimentaire et nutrition. Sur les infrastructures, on est d'accord. Il y a un vrai défi aujourd'hui en termes de développement local et régional pour les États africains de développer des infrastructures qui permettent l'accès aux marchés, notamment régionaux. Mais ce qu'on voit sur la Côte d'Ivoire, par exemple, c'est le financement d'une route qui va directement des grandes plantations gérées par des agro-industriels jusqu'au port d'Abidjan. Et une toute petite partie de l'enveloppe va, elle, aller au développement des pistes rurales. Or, le défi aujourd'hui, c'est de développer justement ces pistes rurales pour assurer un approvisionnement des marchés locaux et régionaux. Donc on est encore une fois là sur des investissements qui ne vont pas avec l'objectif qui est affiché. Il en va de même pour le type d'entreprises qui sont soutenues, puisque les États membres du G8 ont l'aide publique au développement, mais aussi également de plus en plus, les agences de développement ont une branche dédiée au secteur privé. En l'état, en France, c'est la branche s'appelle Proparco, qui travaille pour l'Agence française de développement et qui se dédie à faire des prêts, notamment, ou des garanties pour des grands investisseurs privés dans les pays du Sud. Et donc nous, ce qu'on a trouvé, c'est qu'en plus de ces lignes publiques d'aide publique au développement, la France fait aussi des investissements avec Proparco dans le cadre de la Nouvelle Alliance, et avec des entreprises, là encore, qui n'ont rien à voir avec la sécurité alimentaire et la nutrition. On est sur des traders de matières premières, on est sur des grandes routes, on est sur des prêts pour des très grandes banques qui refusent de faire des prêts aux entreprises locales ensuite. Donc on est loin encore de vraiment soutien aux marchés locaux, à l'agriculture paysanne locale, à des modèles d'agroécologie. On est sur des méga-projets, des gros investissements par de grands acteurs.
Vous dites la France, Maureen Joran, mais cette nouvelle alliance dont on peut mesurer les qualités a été décidée avant l'arrivée de la majorité actuelle au gouvernement. Et de fait, le candidat François Hollande et le Parti socialiste s'étaient plutôt prononcés contre. Donc est-ce que la situation actuelle que vous décrivez, à savoir il n'y a pas un centime de plus qui a été mis, on n'est que sur des projets qui étaient déjà engagés. Est-ce que ça ne serait pas le reflet d'une réticence de la France à s'engager? Et puis Proparco, qui est-ce exactement? C'est pas de l'argent public.
Alors déjà, sur le tempo, j'ai envie de dire, de la Nouvelle Alliance. En effet, la Nouvelle Alliance a été lancée début juin 2012, donc quelques semaines après l'arrivée de François Hollande. Et il faut savoir que ce type d'initiative très importante, parce qu'on part, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais en investissement public de l'ensemble des États membres du G8 et de leurs bailleurs partenaires, on est à plus de 4,5 milliards d'engagements. Donc on est sur des grosses sommes. Donc ça, c'est des choses qui sont négociées pendant très longtemps. Et en effet, le nouveau gouvernement a finalement participé à cette initiative qui avait été négociée et acceptée par le gouvernement précédent. Ce qu'il y a, c'est qu'au moment donc, où ils ont été dans cette initiative, la France a été avec un discours très critique face à ses partenaires, hein, et ça on le reconnaît, expliquant que le modèle de la Nouvelle Alliance qui se base sur les multinationales, ce n'est pas le modèle que souhaite la France. La France souhaite des développements beaucoup plus locaux avec l'agriculture paysanne, un modèle agroécologique. Ça a été affirmé et réaffirmé par Pascal Canfin quand il était ministre, et récemment par Annick Girardin en septembre à l'occasion de la réunion de la Nouvelle Alliance.
Ministre donc de la coopération du développement.
Qui a suivi à M. Pascal Canfin. Donc sur le discours, on a une France qui reste cohérente avec ce qu'elle a annoncé dès la signature, c'est-à-dire on est dedans, mais ce n'est pas le modèle que nous, on souhaite défendre. Et ce qu'il y a, c'est que la phrase allait plus loin que ça, et la phrase était « on va essayer d'influencer de l'intérieur cette nouvelle alliance ». Et ce qu'on nous avait plus ou moins expliqué, c'est que voilà, on n'était pas en accord, donc on allait faire un rôle pour la réorienter, et donc pas s'investir outre mesure non plus dans les projets qui vont être développés. Et c'était cohérent avec le discours. Et le problème, c'est que dans l'étude qu'on a fait avec Action contre la faim et Oxfam, on a vraiment voulu regarder ce que faisait la France dans la nouvelle alliance, et ce qui est apparu, c'est que c'est l'un des premiers acteurs en fait, de cette initiative. Et donc, le discours est critique, mais dans les faits, la France est un acteur principal de la nouvelle alliance.
De quelle manière ?
Alors, sur les trois engagements possibles qu'elle pourrait avoir, c'est tout d'abord en termes de suivi de la nouvelle alliance. La France coordonne un pays particulier, c'est le Burkina Faso, et extrêmement impliquée également en Côte d'Ivoire. Donc, elle est impliquée dans le développement de la nouvelle alliance. Financièrement aussi, la France est le troisième bailleur de la nouvelle alliance. Il y a d'abord les États-Unis, puis l'Europe. Puis la France, à plus de 500 millions publics, mais si on rajoute les investissements privés, on est à près de 800 millions, donc on est sur des sommes importantes. Et puis, dans le développement des projets, puisqu'on retrouve beaucoup d'entreprises françaises qui sont membres de la Nouvelle Alliance, on a parlé de Louis Dreyfus tout à l'heure, il y a aussi par exemple C'est moi pour le chocolat, il y a la compagnie fruitière, il y a plusieurs entreprises qui sont déjà présentes dans le développement agricole en Afrique, qui sont membres de la Nouvelle Alliance. Donc la France nous est apparu comme un acteur principal, central de cette initiative. Et donc, en effet, quand je parle des investissements de la France, j'utilise deux chiffres, puisque la France déclare, dans le cadre de la nouvelle alliance, plus de 500 millions de financements publics. Et Proparco, donc en effet, ce n'est pas directement de l'aide publique au développement, ce n'est donc pas de l'argent public directement donné aux entreprises, mais c'est des garanties ou des prêts qui sont accordés sur la base des dotations du budget de notre État. Et donc, c'est en fait ça qui permet aux entreprises d'avoir par exemple des prêts à moindre taux parce qu'elles ont soit une garantie publique, soit un prêt qui est directement donné par cette banque, puisque Proparco est un acteur bancaire aujourd'hui. Donc finalement, c'est aussi l'acteur public qui soutient l'action de ces entreprises en lui donnant ce type de facilité. Donc c'est aussi pour nous un investissement qui est soutenu par la France aujourd'hui. Et ça représente plus de 230 millions dans ce que la France finance dans le cadre de la nouvelle alliance.
Maureen Jorand, vous avez évoqué au début de l'entretien le concept de diplomatie économique qui a été développé par le ministère des Affaires étrangères français.
Alors oui, depuis l'arrivée de M. Fabius, il a insisté plusieurs fois sur le fait qu'il souhaitait développer la diplomatie économique pour la France, c'est-à-dire assurer le rayonnement des entreprises françaises à l'étranger et que la France se fasse aussi porte-parole pour ces entreprises, notamment dans ses actions de relations internationales. C'est pas nouveau. On sait que depuis très longtemps, ça existe, les voyages présidentiels accompagnés de plusieurs entreprises. Ça date pas de ce gouvernement. Les gouvernements précédents l'ont fait depuis de nombreuses années. Ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, c'est une doctrine pratiquement. C'est la diplomatie économique qui est mise en œuvre au ministère des Affaires étrangères. Et ça a eu un impact direct sur rien que l'organigramme, l'organisation du ministère des Affaires étrangères, puisque aujourd'hui, on a une direction des entreprises internationales qui a autant de poids que la direction des biens publics mondiaux, que les directions plus, j'ai envie de dire, traditionnelles qui s'occupent des relations internationales géopolitiques ou de développement. Et puis aussi, c'est le développement de relations politico-économiques avec de nombreux voyages qui sont mis en place avec certains États clés pour lesquels on souhaite se développer. Et c'est vrai que dans le cadre de la nouvelle alliance, nous, on a remarqué qu'il y avait des relations très fortes qui se créaient sous couvert de cette diplomatie économique entre le gouvernement français et la Côte d'Ivoire, avec de multiples rencontres entre des investisseurs privés et des autorités publiques des deux États. Et ça, finalement, reste dans la même, j'ai envie de dire, ancienne de la nouvelle alliance. Et voilà, c'est comment le public et le privé peuvent main dans la main venir influencer des États pour qu'ils changent leur législation et qu'ils facilitent leur investissement.
C'est dans l'organigramme, disiez-vous, c'est aussi dans une brochure spécifique que vous citez abondamment dans votre rapport, Maureen Jorand ?
Alors oui, cette brochure explique un peu l'ensemble du dispositif qui est mis en place pour cette diplomatie économique. Et sur le site internet, par exemple, dès que ça a été lancé, c'était très visible. Il y a une grande partie du site internet maintenant qui est dédiée à cette question-là. Et il y a une carte interactive, par exemple, qui nous a assez fait rire, qui permet aux entreprises de pouvoir suivre les prochains voyages de diplomatie économique de nos ministres. Donc soit M. Fabius, soit Mme Girardin ou les autres secrétaires d'État qui sont membre du ministère des Affaires étrangères, et de pouvoir ensuite contacter, hein, donc il y a tous les petits liens qui sont présents, le service PREF pour pouvoir préparer le voyage du ministre et à s'assurer de participer, d'être par exemple dans l'avion et dans les différentes rencontres. Donc ça, c'est un petit outil très pratique, et c'est vrai que ces entreprises, on voit qu'elles sont très présentes dans les derniers voyages officiels. Par exemple, pour le dernier voyage en Côte d'Ivoire, on a eu de nombreuses entreprises, des infrastructures, de l'agroalimentaire, qui ont participé, certains membres de la Nouvelle Alliance d'ailleurs. Ils étaient plus d'une quarantaine d'entreprises, une dizaine ou une douzaine de parlementaires ou de représentants institutionnels, si ma mémoire est bonne. Et nous, on a été regardés côté société civile, parce qu'on a aussi des choses à dire à la société civile, et on aurait aimé participer aux nombreux débats qui a dû avoir lieu. Côté société civile, malheureusement, pas de membres d'ONG, pas de membres d'organisations qui travaillent sur l'Afrique ou la Côte d'Ivoire. Il y avait un judoka, il y avait le représentant d'une institution de microfinance, et puis il y avait le chanteur de Magic System. Donc sûrement des liens forts à nouer aujourd'hui au niveau culturel et sportif avec la Côte d'Ivoire, mais on pense que quelques noms en plus de ces trois seuls représentants de ce qu'on a appelé la société civile n'auraient pas fait de mal, mais on voit que c'est pas l'accent qui est décidé aujourd'hui. Et puis donc en effet il existe cette brochure.
Le Quai d'Orsay au service des entreprises ?
Voilà, le Quai d'Orsay au service des entreprises qui explique tous les dispositifs qui ont été mis en place pour faciliter les relations de l'entreprise avec l'outil diplomatique français. On parle de réunions mensuelles qui peuvent être organisées dans les pays avec l'ambassadeur. Donc on a un lien direct qui peut être créé avec l'ambassadeur aujourd'hui. Il y a des rencontres annuelles Quai d'Orsay entreprises qui sont mises en place désormais, des salons, des conférences spécifiquement pour les entreprises pour assurer qu'elles intègrent pleinement l'outil diplomatique français. Et finalement, on voit ce qui se cache derrière, parce que c'est assumé aujourd'hui, notamment par un des directeurs de cette direction des entreprises internationales. C'est que on a beaucoup injecté d'argent en Afrique, et aujourd'hui, on attend un peu un retour sur investissement. Et ce retour sur investissement, c'est que nos entreprises aillent intégrer ces marchés prioritairement.
Pleinement assumé. Je lis cette phrase donc signée du ministre des Affaires étrangères. J'ai souhaité que le ministère des Affaires étrangères développe ce réflexe économique et s'organise en conséquence. L'ensemble du Quai d'Orsay est à leur service, c'est-à-dire au service des entreprises. Rappelez-nous combien de personnes seraient susceptibles de bénéficier d'une aide alimentaire et nutritionnelle en Afrique, Maureen Joran ?
Alors aujourd'hui, de manière globale, mondiale, on est à plus de 800 millions de personnes qui souffrent de la faim dans le monde. Mais la Nouvelle Alliance, elle, a pour objectif 50 millions de personnes qui sont dans l'insécurité alimentaire. Là-dessus, c'est vrai que c'est un peu oublié des discours de ces dernières années. En tout cas, l'outil diplomatique, nous, on le voit, n'est pas au service de la lutte contre la faim et de la lutte contre la pauvreté. Et que la diplomatie des droits de l'homme, parce qu'il faut le rappeler aussi, le droit à l'alimentation, ça fait partie des droits humains, et que c'était quelque chose qui devrait être défendu par notre diplomatie des droits de l'homme, qui fait beaucoup plus écho au combat qu'on peut mener que la diplomatie économique, qui pourtant est vraiment très présente aujourd'hui, et on le ressent partout.
Voilà, cette émission est maintenant terminée. Vous pourrez la télécharger ou la réécouter sur notre site franceculture.fr. Vous y trouverez un lien vers le rapport du CCFD, Oxfam et Action contre la faim. Vous retrouverez également notre revue de web hebdomadaire. Notre numéro de téléphone, c'est le 01 56 40 36 72. Notre adresse, Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi. Préparation, documentation, Laurence Chenepin, Anne Gouzon. Mixage, Philippe Bredin. Réalisation, Jean-Christophe Francis. Bonne semaine à tous.